y a eu un sondage qui a été fait comme quoi, objectivement, 2 kilos ont été pris en moyenne par les gens pendant le confinement. Ouais. Comment ressortir et enfin retrouver peut-être une alimentation en sortant de cette période où on était confiné, où on mangeait plus. Je sais pas si tu as des conseils peut-être particuliers là-dessus.
Moi, je fais partie des Français qui ont pris 2 kilos. Et je les vis très bien. Finalement, c'est bien de pas me voir avec le... Alors, je sais qu'il y a des femmes qui veulent le ventre plat, les abdos, mais moi, j'aime bien.
Salut, c'est Cléo et bienvenue dans Championne du Monde, le podcast de toutes les femmes qui vivent le sport aujourd'hui. Pongiste professionnelle, aficionados du Stade Vélodrome, médecin du sport ou encore vos mères fans de Kevin Mayer, dans chaque épisode, partez à la rencontre de ces femmes passionnantes qui sont plus badass que la plus badass de tes copines. Bonne écoute! Protéines, glucides, lipides, on est d'accord, vous aussi vous connaissez tous ces termes, mais soyons sincères, vous vous y perdez un peu. Vous essayez de bien manger, vous essayez de vous renseigner sur Internet pour comprendre ce qui est bon pour votre corps ou moins bon. Bref, si comme moi vous vous intéressez à ce que vous mangez mais que vous êtes quand même, disons-le clairement, un peu paumé, cet épisode vous intéressera probablement. Dans ce nouvel épisode, nous avons discuté avec Cécile Giornelli, nutritionniste et coach sportive spécialisée dans les sports de combat. Elle nous a donné sa conception d'une alimentation équilibrée et sa vision de la nutrition qu'on pourrait dire atypique. Elle nous a également apporté un éclairage sur comment mieux comprendre son corps, ses besoins et ses potentiels manques. Est-ce que je mange bien? Est-ce qu'il m'est utile de prendre des compléments alimentaires? Vous trouverez, je l'espère, dans cet épisode, de vraies pistes de réflexion et de compréhension sur votre alimentation. Et bien sûr, on aborde également les besoins nutritionnels des femmes et qui, surprise, ne sont évidemment pas les mêmes que les hommes. Allez, préparez-vous un petit encas et si vous n'êtes pas vraiment dans votre assiette, ce podcast est fait pour vous. Bon appétit, bon épisode. Salut Cécile.
Salut.
Merci d'être avec nous aujourd'hui pour parler de nutrition. Première question, est-ce que tu peux nous expliquer quelle est la différence, et s'il y a une différence d'ailleurs, entre une nutritionniste du sport et une nutritionniste dit classique?
Alors la nutritionniste, que ce soit nutritionniste, diététicien, médecin nutritionniste, c'est un spécialiste de la santé à travers l'alimentation. Donc, il va être là aussi pour traiter des maladies, pour préparer, par exemple, l'allaitement, des maladies infantiles, du préambulatoire, de la perte de poids aussi pour être mieux dans son corps. Tandis que le nutritionniste du sport n'intervient que sur la performance, uniquement l'optimisation de la performance de l'athlète. Ça peut passer par la perte de poids, notamment vis-à-vis de ma spécialité qui est dans les sports de combat, mais aussi dans la prise de poids ou la stabilisation. Nous, ce qu'on cherche, c'est aider l'athlète à performer.
Ok, très bien, très clair. Toi, donc, pour que les choses soient... Tu es nutritionniste, du coup, spécialisée dans le sport et plus particulièrement les sports de combat, comme tu viens de le dire.
Tout à fait.
Mais tu aides quand même aussi s'il y a des gens... qui veulent faire appel à toi dans un cadre plus traditionnel de la vie quotidienne, c'est aussi quelque chose que tu fais.
Tout à fait. C'est-à-dire que je me suis fait mon petit nom dans les sports de combat. Maintenant, j'ai des personnes que j'aide pour l'équitation, pour des trails, pour de la GRS aussi, de la natation. Mais maintenant, voilà, ce ne sont pas mes spécialités. Et j'ai aussi des personnes qui sont un petit peu comme monsieur et madame tout le monde, qui fait sa gym, son petit renforcement musculaire ou son petit footing deux fois par semaine. Ou alors des personnes qui n'ont aucune activité sportive. Voilà, ça peut arriver, mais ça ne représente que 10 à 15% de mes demandes.
Ouais, c'est une toute petite partie de ta clientèle.
Tout à fait.
Et pourquoi toi, pour revenir un peu plus sur ton parcours, pourquoi tu as voulu t'orienter vers la nutrition et plus particulièrement la nutrition du sportif?
Moi, j'ai un parcours un petit peu atypique. De base, je viens d'une école de commerce. J'étais spécialisée en marketing, en management.
Rien à voir.
J'ai été ingénieure d'affaires pendant des années dans une multinationale. Et en gros, j'étais en réussite, mais ça me...
pas l'épanouissement total.
Exactement. Et c'est un peu avant mes 30 ans. Un jour, je vois un coach dehors. J'étais en voyage en Israël, je me rappelle. Je vois un coach qui... Et je me suis dit, ça, c'est un métier qui fait... On dirait un métier de liberté. Et je me suis dit, tiens, je vais me reconvertir. J'ai changé de métier. Donc, j'ai plaqué un CDI, payé sur 15 mois, la voiture de fonction, tous les avantages. Et j'ai repris mes études, voilà, avant mes 30 ans. Et ce qui se passe, c'est que... Puisqu'à côté, je suis aussi coach sportif. Mm-hmm. Voilà, j'ai deux métiers. J'avais une volonté de devenir maman à terme. Donc, je raconte un petit peu ma vie, mais tout s'explique. Je ne me voyais pas... Dans le coaching, il y a une forte notion de, du physique, forcément. Et je ne me voyais pas être coach encore à 50 ans, en leggings, en basket. Et c'est pas quelque chose dans lequel je me projetais. Du coup, j'ai cherché une autre casquette. Et la nutrition est venue assez... facilement. Mais ce n'a pas été mon... Pour être très honnête, ce n'a pas été mon choix premier.
Ouais. La première étape, ça a été par le coaching.
Tout à
vraiment
fait.
Le sport plus
tout
particulièrement.
Et je me suis dit, mais il me faut un autre métier pour la partie où je serai durant ma grossesse ou juste après avoir accouché. Voilà. Et finalement, ça m'a beaucoup plus plu.
Ouais.
Et aujourd'hui, c'est effectivement l'essentiel de mon activité est représenté par la nutrition, mais je suis encore coach sportif quand même. Et voilà, donc j'ai passé 2 ans à confronter 2 diplômes en même temps. Enfin, pas à confronter, à passer 2 diplômes en même temps. Et ça s'est bien passé. Donc, contente de ça, j'en ai passé un autre pour me spécialiser justement sur la nutrition sportive.
D'accord.
Puisque le premier diplôme, c'était la nutrition plus générale. Et voilà.
Et pourquoi t'être orientée plus spécifiquement vers les sports de combat? Bon, tu disais que tu faisais pas que du sport de combat, mais c'est quand même un peu, on va dire, ta carte de visite.
C'est complètement ma carte de visite. En fait, les sports de combat, c'est familial. J'ai mon papa qui est prof de karaté depuis 50 ans. Moi, j'ai commencé le karaté à mes 5 ans. J'en ai fait 20 ans. Dès mes 25 ans, j'étais 3e dan. J'ai fait de la compétition à niveau, je ne peux pas dire haut niveau, puisque je n'étais pas du tout sur la scène internationale, mais bon, j'étais sur la scène, on va dire, au moins nationale. Donc, j'ai fait 15 ans de compétition. Ensuite, je suis arrivée en région parisienne. Après 20 ans dans un même club, ça a été très difficile pour moi de changer de club.
Ouais.
Donc, surtout que c'était mon papa, donc le prof, donc très très dur.
Le club de cœur, en plus.
Le club de cœur, mais surtout très très dur, puisqu'il ouais. fallait pas que sa fille puisse avoir des avantages. Donc au contraire, c'était beaucoup plus dur. Mais toujours avec beaucoup de bienveillance, hein, je précise. Du coup, j'ai changé de discipline. Je me suis dirigée vers le Krav Maga. Je ne sais pas si ça te parle.
Ça me parle, explique peut-être pour les gens qui ne connaissent pas.
C'est de la self-défense, donc autant le karaté c'est un art martial, le Krav Maga c'est de la self-défense inspirée par l'armée israélienne et utilisée par l'armée israélienne. Donc j'ai fait ça à peu près 3 ans. Ensuite, on arrive sur la période où je me reconvertis et j'ai à peu près 20 heures de sport par semaine entre des cours collectifs, très fitness, mais ça fatigue. Donc là, je découvre via la salle de Krav Maga le MMA,
oui.
Donc les Mixed Martial Arts, qui désormais est autorisé en France. La compétition
Absolument.
Est autorisée en France. Donc je découvre ça dans une salle. Je ne savais pas que c'était la première salle française et qui allait devenir la première salle d'Europe, qui s'appelle MMA Factory, qui est à Paris, dans le 12e. Donc, je mets les pieds là et puis je découvre le MMA et ça me plaît. Donc, j'en fais toujours en loisir, par contre, aucune prétention là-dessus. J'en fais 2-3 ans jusqu'à tomber enceinte. Donc, finalement, j'ai à peu près, aujourd'hui, j'ai 36 ans, j'ai à peu près 30 ans de sport de combat derrière moi. Donc, tout ça pour dire que
naturellement,
ça s'est imposé tout seul. Tout seul par mon réseau,
ouais.
par c'est mon dada.
T'as rencontré
en fait.
Des gens là-bas, via ta pratique, en fait, qui ont dit « mais moi, ça m'intéresse, j'ai envie de me faire suivre ».
C'est ça. Et puis, au moment où je mets les pieds donc, dans la salle du MMA Factory, je découvre beaucoup d'athlètes de très haut niveau qui, eux, brillent sur la scène internationale. on sympathise. Le head coach de la salle qui s'appelle Fernand Lopez, on a sympathisé aussi, on a noué des liens et du coup, il me fait confiance et je deviens, donc c'est la période où je viens d'obtenir mon diplôme en nutrition et donc je deviens pendant 3 ans la nutritionniste de la salle.
D'accord.
Et je prends en charge les athlètes.
Et là, tu bosses, à l'heure actuelle, tu bosses avec des athlètes à rayonnement international, mm-hmm. des personnes, des athlètes connus, je ne sais pas si tu as le droit d'en citer ou si c'est...
Je pense que oui, je peux les citer. J'ai travaillé pendant... Alors, il y a ceux avec lesquels je ne travaille plus puisque moi, ma vision de la nutrition, c'est de rendre les personnes indépendantes. Mm-hmm. Donc, à partir du moment où ils ne travaillent plus avec moi, quelque part, c'est que le job est fait.
Ouais, t'as fini ton travail.
Surtout s'ils me recommandent derrière. Bon, après, s'ils ne me recommandent pas, ça veut dire qu'ils n'ont pas été satisfaits, on va dire. Mais globalement, j'ai été recommandée. Donc, effectivement, j'ai travaillé avec des athlètes de très grand nom, des athlètes qui ont été à l'UFC. Donc, toute la team du MMA Factory, bien que depuis, elle se soit renouvelée, mais j'ai eu beaucoup d'athlètes au MMA Factory. J'ai eu Clarisse Agbenyenou. Mmh. Quadruple championne du monde de judo.
Très grand nom.
Voilà, on devait aller au jeu, on devait aller jusqu'au jeu, ça a été décalé. Donc, mais avec beaucoup d'honnêteté, elle m'a dit, Cécile, aujourd'hui, en soi, je n'ai plus besoin. Tu m'as apporté tout ce qu'il me fallait, je n'ai plus besoin, mais on s'entend toujours très très bien. Je travaille avec le champion du monde de karaté, Steven D'Acosta, lui aussi donc en lice pour les JO, avec Charlotte Lambard qui est dans l'équipe de France d'escrime, idem qualifiée aux JO. Donc j'ai Charline Van Snick dans le judo, donc elle est belge. Idem, donc qualifié au jeu. Donc,
ouais.
Et pour la partie Jeux Olympiques, une dernière qui s'appelle Yasmina Aziez dans le taekwondo. Mais j'ai vraiment la chance de travailler avec des très grands noms et d'autres qui sont moins connus, mais tout aussi
Oui, c'est tout aussi intéressant aussi, voilà, j'imagine, de travailler avec eux.
C'est ça, et d'autres qui ont... Je ne les ai pas aidés sur la partie purement sportive, mais dans leur après-carrière, puisqu'il faut savoir que les sports de combat, on est sur des sports à catégorie de poids, avec des régimes très stricts, très durs.
On va y revenir après, parce que c'est vrai que c'est assez intéressant aussi. Okay. Pour continuer, peut-être un peu plus dans le vif du sujet, tu as monté ton propre programme, qui s'appelle Golden Coach, c'est ça? Tu me dis si je me trompe. Mm-hmm. En quoi il consiste, ce programme-là?
Je ne propose pas justement un programme, c'est que je ne fais que du sur-mesure.
D'accord.
C'est-à-dire que je prends en compte ce qu'on appelle le rythme circadien. Donc c'est le joli mot pour dire horloge biologique, l'horloge interne. Et chacun a son rythme. Certaines personnes vont être du matin, vont avoir faim à partir de telle heure, vont aller, désolée, c'est pas glamour, mais à la selle, oui, à telle heure, avoir envie de dormir à telle heure, etc. Donc tout ça, ça relève du rythme circadien. Il y a tout un jeu hormonal, c'est sans rentrer dans un débat, dans quelque chose d'un peu trop complexe, mais je ne me base que sur ça. Et donc une personne qui a un entraînement le matin, disons fin de matinée, mais qui me dit... Le matin, Cécile, ça ne passe pas, je ne peux pas manger. Ben, dans la plupart des programmes, ils vont avoir à manger le matin.
Ouais.
Sauf que moi, la personne en face, elle me dit, ça ne passe pas. Donc, il n'y a pas de règle.
Tu adaptes tout, en fait.
En fait, c'est pour ça que le bon programme, quelque part, moi, il me dérange un peu, parce que c'est comme s'il y avait une règle absolue à appliquer à tout le monde. Alors que non, pour moi, la règle, c'est qu'il n'y a pas de règle.
D'accord.
Si ce n'est celle d'écouter et d'adapter.
Ouais.
Je ne sais pas si c'est un programme.
C'est ta manière, en tout cas, d'amener la nutrition.
C'est ça.
Et c'est assez intéressant parce que c'est vrai qu'on entend énormément... Soyons honnêtes, la nutrition, maintenant, c'est une thématique qui est à la mode. Je ne sais pas si c'est le bon terme. En tout cas, on en parle énormément. Ouais. Il y a beaucoup de choses sur la nutrition, peu importe le domaine. Voilà, nous, on est un peu plus centrés sur la nutrition du sportif, mais c'est quelque chose dont on parle beaucoup. Et on a l'impression maintenant que tout le monde essaie de nous vendre... Le repas parfait ou la journée parfaite en termes d'alimentation, ce genre de choses. Toi, tu es complètement contre ce genre de...
Moi, je suis complètement contre. Et puis surtout, je fais face à beaucoup de légendes. Énormément de légendes circulent sur... Donc, à nouveau, comprenons bien le contexte qui est que 80-85% des personnes avec lesquelles je travaille sont des combattants, des boxeurs. Donc, il y a des façons de perdre le poids. Dans notre milieu, on appelle ça le cutting. Le cutting, c'est une perte de poids qui précède les semaines, les jours qui précèdent le combat. Nous, notre objectif, c'est d'être au poids pour la peser. Mais on a des athlètes qui sont au poids, mais énergie zéro. Et c'est pas ça qu'on veut, nous. Nous, ce qu'on veut, c'est optimiser le rapport poids-puissance et le fait d'être en forme. Donc effectivement, je lutte contre énormément de préjugés, de légendes, notamment pas de féculents le soir. Ouais. Alors que tu manges ton féculent le matin, le midi ou le soir, à la fin de la journée, ton total calorique n'aura pas du tout été impacté.
Ouais.
Donc je leur explique que c'est pas de féculent le soir, c'est que le féculent va apporter telle chose. Et est-ce que cette chose va être bénéfique à mon entraînement ou pas ? À quel moment je le prends pour que ce soit optimisé et efficace dans mon entraînement pour que ça m'apporte l'énergie à tel moment ? Et donc, s'il s'avère que le bon moment de prise, c'est le soir, eh bien, on les prend le soir. Mmh. Et c'est pour ça. La règle, c'est qu'il n'y a pas de règle.
C'est des choses qu'on n'a pas l'habitude d'entendre. Parce que ça, en plus, c'est vrai que tout ce qui est alimentation du sportif, on entend beaucoup le mot féculent, protéine, le mot protéine qui revient tout le temps, qui est même devenu un peu un running gag. Hein. On associe tout de suite les mecs qui poussent de la fonte, ou en tout cas les sportifs professionnels, aux protéines, mm-hmm. comme si c'était un peu l'ingrédient miracle pour devenir un sportif performant. Mm-hmm. Alors que tu es en train de dire que ce n'est pas forcément le cas, ou en tout cas, c'est pas forcément le cas. Bon. En tout cas, on en a besoin, mais à adapter de façon intelligente.
C'est ça. Je vais nuancer le propos. On en a besoin. Oui. On a besoin de tout. Hein. On a besoin de protéines, de lipides, de glucides. On a besoin de beaucoup de choses. Non, mais c'est intéressant parce qu'effectivement, quand on entend protéines, en vrai, ce que tu veux dire, c'est on entend complément en protéines. Compléter l'alimentation en protéines. Mmh. Seulement, on oublie que dans notre société actuelle, on surévalue nos besoins. Et on oublie ça, on oublie qu'il y a 50 ans, donc il n'y a pas besoin d'aller chercher bien loin. On mangeait beaucoup moins de protéines et de protéines animales. Mmh. Donc je précise, je ne suis pas végétarienne, j'aime la viande, je suis une carnivore, seulement avec toute l'objectivité qui me caractérise via mon activité, je sais qu'aujourd'hui nos besoins sont surévalués. Mmh. Et donc il y a 50 ans, nos grands-parents n'étaient pas carencés en protéines, bien qu'ils mangeaient moins de protéines. Donc aujourd'hui, on a... surévaluer nos besoins en protéines. Et à ça s'ajoute le fait qu'à partir du moment où on fait un peu de renforcement musculaire, eh bien du coup, on propose shaker de protéines. Mmh. Désolée, je rentre dans le stéréotype. Et donc, c'est plutôt des nénettes qui vont faire deux fois par semaine du renforcement musculaire ou même de la muscu. Mais t'as pas besoin d'un shaker... Déjà, tu n'as pas besoin de ton shaker derrière la séance, mais encore moins tous les jours.
Ouais.
Et donc, tu réévalues tout ça. Donc voilà, tout ça, ce sont des légendes. Et l'idée, c'est de faire beaucoup d'éducation, mm-hmm. beaucoup de pédagogie. Parce que qui dit légende, dit ancrage. Et c'est la raison pour laquelle, même avec certains entraîneurs, je vais donner un exemple très concret. Je travaille en collaboration avec le pôle espoir de Brétigny dans le judo,
ouais.
sur les catégories très très jeunes, minime cadet. Donc à 13-14 ans, ils font déjà des régimes.
Hein. D'accord.
Voilà. Ça commence très tôt. C'est pour ça que je parle de légende et que je parle d'ancrage.
Ouais.
Et on vient faire de la pédagogie, on vient expliquer à ces générations qui en vrai ne savent pas et ne font que restituer ce que font les aînés.
Mmh.
Sauf que l'aîné qui est effectivement au niveau international, qui a une expérience de son corps, une expertise, qui a un staff derrière, c'est un petit peu la restitution. Il y a tellement d'intermédiaires qui manquent toujours un élément. Et eux, ce qu'ils font, c'est juste catastrophique. Et voilà. Donc...
Après, ça veut dire qu'ils ils se réapproprient des choses qui ont marché pour les aînés, mais qui ne sont peut-être pas appropriées pour eux. En fait, c'est ça que tu veux dire.
Déjà, ce n'est pas approprié pour eux. Et puis surtout, ils oublient des éléments. Par exemple, comme je disais, nous, dans notre discipline, on fait ce qu'on appelle le cutting. Et les dernières heures, pour certains athlètes, on joue sur l'eau. Donc, on ne perd plus le poids. On ne joue plus sur les graisses, sur le tissu adipeux. Mmh. On joue sur l'eau. On se déshydrate. Donc, on passe par des saunas ou des bains ou courir en sudisette, comme un peu ce qu'on voit dans les films, hein, le boxeur qui va courir avec sa combinaison pour transpirer. Ça, ils vont faire ça, mais sans savoir le faire. Et surtout... Un boxeur qui fait ça, on met en place derrière ce qu'on appelle un protocole de reconstitution. C'est-à-dire qu'il est pesé. Dans la minute qu'il descend il descend de la balance, il y a un vrai protocole. On ne remange pas n'importe comment.
Mmh.
Ben, eux, en fait, ils vont se déshydrater et après, il n'y a aucun protocole derrière. Sauf que ton estomac, il a été rétracté pendant des jours. Il est bien évident qu'on ne peut pas tout de suite lui réinjecter de la nourriture ou de la flotte. Non, ça se fait par étapes. Sinon, tu crées une trop grosse perturbation pour tout ton système digestif. Et
c'est contre-productif, en fait,
c'est
même.
C'est totalement contre-productif. Et donc, le protocole en soi pour qui va suivre cette déshydratation est mal mis en place, mais la déshydratation aussi. Pour te donner un ordre, voilà, je vais te donner des chiffres, c'est plus simple. Si tu perds 1% de ton poids de corps en eau, tu perds 10% de tes capacités physiques et mentales.
D'accord.
Donc si tu te déshydrates de 2%, tu perds 20% de tes capacités physiques et mentales.
Ce qui est absolument énorme.
C'est énorme. Et j'insiste sur les capacités aussi mentales. Nous sommes sur des sports où le réflexe, l'anticipation, on est sur aussi des sports individuels. Hein. On peut se rattraper sur personne d'autre. Hein. Donc quand tu t'en prends, entre guillemets, plein la gueule, tu as des coups qui arrivent, la lucidité est archi importante. Le timing est archi important. Du coup, on a besoin d'avoir les capacités mentales au plus haut niveau. Et c'est pour ça que j'insiste sur le fait qu'on perd en capacité physique, donc la fatigue, le problème de récupération, etc., moins de force, moins de puissance. Mais aussi au niveau mental, ça a des vrais impacts.
Ouais, et d'ailleurs, c'est intéressant parce que ça me fait le lien avec ma prochaine question qui est à quel point, en fait, est-ce que tu arrives à peut-être chiffrer ou à quel point l'alimentation a un impact sur la performance physique finale ?
Ils me disent juste, j'ai jamais ressenti ça. Je suis toujours arrivée à la pesée fatiguée. Et là, ils me disent, je suis arrivée à la pesée au poids. J'ai même pas eu besoin de faire de déshydratation.
Ouais, ils ont pas eu l'impression de faire d'efforts. En tout cas, de sacrifice peut-être pour y arriver.
Et en fait, si tu veux, les victoires, elles sont là. C'est-à-dire qu'ils te disent, j'ai pas eu besoin de me déshydrater. Donc toute cette partie-là qui est vraiment, limite, un ancrage culturel hein, ouais. dans le sport de combat, la plupart, pas besoin de passer par le bain, le sauna, donc toutes ces étapes-là. Donc déjà, ils sont bien. C'est-à-dire que la dimension psychologique de pas être au poids est énorme. Elle est vraiment énorme. C'est-à-dire que ce qui stresse le combattant les jours qui précèdent le combat, c'est d'être au poids. Ouais. On appelle ça le premier combat. C'est la première victoire d'être au poids.
En fait, c'est vrai, quand on t'écoute, on a l'impression que tu fais un lien indissociable entre alimentation et aspect mental, en fait.
Complètement. C'est-à-dire que si tu affranchis ton athlète de cette peur de ne pas être au poids, bah, tu sais que tout son focus, il va être tourné sur sa performance, pure le soir même. Et ça, c'est une victoire énorme. Un autre exemple tout bête que j'adore prendre, mais qui pour moi est juste très clair. Tu peux avoir la plus belle voiture du monde, la plus puissante, la plus ci, la plus ça. Si tu ne lui mets pas la bonne essence, ça ne marchera pas. Donc en fait, bah, c'est exactement ça. Pour moi, l'alimentation, c'est ni plus ni moins que l'essence, la bonne essence, la bonne huile. Et je ne suis pas mécano, donc toutes les bonnes choses qui font que la voiture avance bien. Voilà.
Ok. Et une question du coup là, qui va paraître peut-être un peu... sortie de son contexte, mais quand on t'écoute, etc., c'est intéressant, tu dis qu'on doit adapter l'alimentation à sa personne, mais selon toi, qu'est-ce qu'une alimentation équilibrée en fait,
Alors, une alimentation
équilibrée... C'est pareil, ça, c'est un mot qu'on entend beaucoup, l'alimentation équilibrée, blablabla.
C'est quoi l'équilibre ?
Oui, voilà, complètement.
Bah, l'alimentation équilibrée, alors là, je repars sur un prisme un peu plus général.
Oui,
qui
est c'est vrai qu'on sort un peu du prisme du sport. Mais...
Voilà, pour monsieur et madame tout le monde, c'est une alimentation déjà qui va couvrir tous tes besoins. Qui fait que tu n'es pas fatigué, voilà, enfin, j'allais dire, tu es en forme, c'est un peu la même chose, mais tu n'as pas de coups de mou dans la journée, de gros coups de barre, tu n'as pas de fringales qui fait que tu te rues sur la nourriture, tu as un rapport assez sain finalement vis-à-vis de la nourriture, c'est-à-dire que tu sais te faire plaisir, mais que tu n'as pas besoin de te faire plaisir tous les jours et sur chaque repas. Voilà. C'est-à-dire que le plaisir, il doit être là, mais quand je dis qu'il ne faut pas se faire plaisir tous les jours, je me suis mal exprimée. Il n'y a pas besoin d'apporter de la gourmandise et D'accord. du plus à chaque repas. Mm-hmm. C'est qu'on sait apprécier quand on l'a, mais que ce n'est pas nécessaire au quotidien. Donc concrètement, c'est quoi ? Ça va être une assiette dans laquelle tu vas retrouver un petit peu de tout. Tu vas retrouver de la viande, du poisson, des œufs ou des protéines végétales pour ceux qui sont plutôt végétariens. Tu vas retrouver ta portion de féculents, ta portion de légumes. Moi, j'ai tendance à conseiller pour ce qui est des personnes qui veulent juste stabiliser leur poids, toujours avoir le double de légumes que de féculents. Donc, on prend une assiette, on la divise en quatre. Un quart, la partie protéinée. Un quart, la partie féculents ou légumineuses, d'ailleurs. Mm-hmm. Et une moitié, donc deux quarts de légumes. Voilà, et après, tu te rajoutes... Si tu n'as rien contre les produits laitiers, tu peux te faire un petit produit laitier, un fruit. Et une alimentation équilibrée, c'est juste ça. C'est savoir écouter son corps.
Ouais. C'est en final, c'est savoir se connaître aussi.
Ouais, complètement. Complètement.
Et il y a un autre aspect, c'est vrai que maintenant, qui est de plus en plus fréquent, c'est l'aspect complément alimentaire. Mm-hmm. Est-ce que toi, tu es pour ? Est-ce que tu es contre ? Quel peut être l'impact positif des compléments alimentaires dans une alimentation équilibrée, justement, qui était ma question d'avant ?
Je suis ni pour ni contre. C'est est-ce qu'on en a besoin, oui ou non ? Il est bien évident qu'un athlète de haut niveau qui s'entraîne 2 fois par jour, 5 jours par semaine, voire 6 jours par semaine, à un moment donné, l'alimentation seule ne suffira pas pour justement combler les besoins protéiques. À moins qu'il bouffe, je ne sais pas, 500 grammes de steak tous les jours, j'exagère, ouais. Mais dedans, il y aurait des graisses et les graisses, on ne les veut pas. Mmh. Voilà.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than 1 billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Je force le trait volontairement. Hein. Et du coup, dans les compléments alimentaires, il faut en distinguer de deux sortes. Ceux qui vont avoir un impact sur la valeur énergétique. Ceux qui sont constitués donc avec des protéines, lipides, glucides. Donc ça, ce sont les 3 nutriments qui apportent de l'énergie au corps. L'énergie, c'est ce que l'on va utiliser pour fonctionner. Mmh. Pour assurer les fonctions vitales telles que la digestion, telles que la respiration. Et bien entendu, qui dit activité sportive dit besoin augmenté. Donc là, on va en avoir besoin. Maintenant, une personne qui ne pratique pas d'activité sportive ou qui va uniquement avoir une heure de marche par jour, ça peut paraître un exploit, mais c'est juste la base hein, chez l'homme. Mmh. On est fait pour marcher. Hein.
Ouais, bien sûr.
Ou courir. Enfin, donc, du coup, certaines personnes qui sont... je valorise les personnes qui font ça, mais je ne le survalorise pas non plus parce que c'est juste la base de notre condition qu'on a oubliée.
Oui.
Ça, c'est important de le préciser. Donc, une personne qui fait ça ou que je reprends, qui fait son cours collectif ou qui va avoir son renforcement musculaire, là, augmenter son besoin par le complément alimentaire, moi, là, je ne suis pas pour. Je vais toujours favoriser l'alimentation traditionnelle. Pourquoi ? Parce que les compléments alimentaires, souvent, c'est sous forme liquide, les fameux shakers. Mmh. Bon, ça peut être des barres aussi, mais souvent, c'est sous forme liquide. Et là, on rentre dans le processus psychologique, la dimension plaisir. Ça signifie qu'il n'y a pas de mastication. Qui dit pas de mastication, dit pas d'information envoyée au cerveau sur la dimension plaisir, notamment, et sur l'information satiété. Il y a une hormone qui est envoyée au cerveau au bout de 15 à 20 minutes de mastication. C'est pour ça qu'on dit qu'un repas, il faut prendre son temps.
Ouais.
Si on mange trop vite, cette hormone n'agit pas et elle n'envoie pas l'information au cerveau comme quoi c'est bon, là j'ai assez mangé. Et donc voilà, de façon générale, moi je vais toujours, si l'alimentation traditionnelle est possible, aller vers ça. Maintenant, si ça ne suffit pas pour combler les besoins, ok, on prend les compléments alimentaires avec une densité énergétique. Et il y a les autres compléments alimentaires qui, eux, n'ont pas de densité énergétique, qui ne vont apporter que des minéraux et des vitamines. Mmh. Qui, là, eux, n'apportent pas d'énergie à proprement parler.
Qui sont moins, du coup, focus performance.
Eh bien non.
D'accord.
Je m'explique. Je vais reprendre l'exemple de la voiture. L'essence, c'est ce qui apporte l'énergie. L'huile, elle n'apporte pas d'énergie à l'essence, mais elle va faire en sorte que tous les rouages, tous les mécanismes fonctionnent bien.
D'accord.
Les minéraux, les vitamines, c'est ça. Au niveau des vitamines, je parlais tout à l'heure de nos aînés qui mangeaient moins de viande. Par contre, ils mangeaient des légumes avec une densité, un intérêt nutritionnel bien plus élevé qu'aujourd'hui. Il y a eu une émission de Élise Lucet.
Ouais, j'allais dire Élise Lucet, effectivement. Voilà. Comme quoi, la nourriture, c'est quand même énormément appauvrie.
Complètement. Et si tu veux, aujourd'hui, les terres sont tellement appauvries que même si tu manges local, tu manges bio, tu fais tout ce qu'il faut, de base...
Ouais, être carencé, potentiellement.
Ouais. Et donc là, tout ce qui est complément alimentaire, justement, non énergétique, même monsieur et madame tout le monde, là, je le recommande.
D'accord.
Voilà. C'est-à-dire que ça peut passer par... c'est bête, mais la cannelle, le curcuma, des épices comme ça, c'est hyper riche en antioxydants, en vitamines, en minéraux. Et après, tu peux passer par des compléments alimentaires. Moi-même, j'utilise des compléments alimentaires. Je travaille avec une marque. Je fais un petit moment promo, c'est Wayne Effect. Et eux, en fait, leur spécialité, c'est justement d'apporter de la performance sans pour autant proposer des protéines. Donc, ça va passer par des produits qui vont travailler sur la flore intestinale.
Ouais.
Le système digestif, c'est le deuxième cerveau. Tu vas en avoir d'autres qui vont améliorer ton sommeil. Ne jamais négliger l'impact de la récupération. Nous, dans le jargon, et là, c'est ma casquette de coach sportif, on dit la récupération fait partie de l'entraînement. Donc, vraiment, tu vas avoir des impacts sur ça pour réguler aussi le fameux rythme circadien. Mm-hmm. Plus ton rythme est régulé, plus ton corps est rassuré, plus il va répondre au stress au stress. Quand tu fais une perte de poids ou une prise de poids, tu le changes son rythme. Donc, mm-hmm.
c'est, ça stresse ton
corps. Voilà,
ton
c'est en corps. Ce sens où je dis stress.
D'accord.
Voilà, donc tu vas avoir... tu vas avoir des compléments alimentaires en vitamine D. La vitamine D, c'est pareil, il ne faut pas la négliger. Et il faut savoir que les populations qui sont jeunes, à peau foncée, les populations très sportives ont beaucoup plus de ou même âgées, les personnes âgées, pardon, ont beaucoup plus de chances d'être carencées en vitamine D que les autres populations.
Et quand on est monsieur et madame tout le monde, comment savoir si potentiellement on a besoin de compléments alimentaires et comment bien les choisir? Parce que c'est vrai que c'est pas forcément facile, même si on voit que des fois il y a peut-être des problèmes dans notre sommeil ou qu'on se sent fatigué. Comment vraiment identifier ce dont on a besoin?
Oui, alors c'est une très très bonne question. Alors aujourd'hui, nous avons quand même de la chance d'avoir des réseaux sociaux, d'avoir Internet. On peut se former. Quand on veut se former, on peut. Maintenant, il ne faut pas rentrer dans le piège de la superficialité, d'aller voir ce que dit un coach et puis s'arrêter là. Non. Il faut croiser les informations. Mais ça demande du travail. Et aujourd'hui, il faut aussi avoir cette honnêteté-là de dire que tout le monde n'a pas cette envie d'apprendre. On est assez feignant, on aime que tout nous soit servi sur un plateau et on n'aime pas toujours aller chercher l'information jusqu'au bout. Donc, sans critiquer, mais ce que je veux dire par là, c'est que si on se pose vraiment la question « est-ce que je fais bien ?», il faut aller jusqu'au bout du processus et vraiment croiser les informations auprès d'experts. Voilà. Après, comment définir un expert?
Ouais.
C'est quelqu'un qui est valorisé par plusieurs membres du milieu, mais là encore, c'est de la recherche. Et donc, pour savoir si on fait bien les choses, c'est simple. Déjà, est-ce que je me sens bien? Je le disais tout à l'heure, est-ce que j'ai des coups de mou? Est-ce que j'arrive à bien dormir? Est-ce que j'ai des fringales? Et ça, très tôt, on le sait.
Mm-hmm.
Et en fait, ensuite, je pense que c'est de jouer levier par levier. J'ai du mal à dormir. Ok, qu'est-ce qui m'empêche de dormir? Est-ce que j'ai mis en place des choses? Est-ce que j'ai bien coupé mon téléphone plus d'une heure avant d'aller me coucher? Est-ce que je me couche plus ou moins à des heures fixes? Donc, essayez déjà de travailler, si c'est le sommeil, sur la dimension sommeil. Une fois que j'ai régulé ça, est-ce que j'ai encore mes troubles?
Mmh.
Oui, non. Ok, ben je vais changer autre chose. Est-ce que je ne vais pas mettre un petit peu plus de produits qui donnent de l'énergie? Donc, une alimentation peut-être un peu plus sucrée. Mais attention, quand je dis sucré, ce n'est pas des Kinder Bueno ou ce n'est pas des choses industrielles. Ça va être... si j'ai décidé... parce que voilà, il y a des grandes tendances aussi dans la nutrition. Tout à l'heure, tu le disais. Mais devenir végétarien, c'est une tendance. Qui est très louable, hein, attention.
Ouais.
Surtout pour les dimensions d'éthique, etc. Enfin, et le fait justement qu'on a surévalué notre consommation, c'est très, très, très louable. Et aujourd'hui, on peut être en parfaite santé, je le dis, hein, et un sportif de haut niveau, parce que j'ai des athlètes de haut niveau qui sont végétariens et que j'accompagne. Donc, c'est tout à fait possible. Seulement, il faut savoir bien le faire. Et il y a des personnes, c'est amusant parce que je discutais hier soir avec une dame que j'ai rencontrée et qui a supprimé totalement la viande. Ok, mais elle ne la compensait par rien d'autre. Donc, elle était super fatiguée. Voilà, donc je pense que ce serait de faire levier par levier et ensuite, voilà, un petit peu de recherche. J'arrive pas à dormir, bah, qu'est-ce qu'il me faudrait? Ah, peut-être un petit peu de mélatonine, un petit peu de zinc, un peu de magnésium, parce que je sais que ça peut m'aider. J'ai des fringales, bah, peut-être un petit peu plus de protéines, parce qu'on sait que les protéines, c'est ça qui est rassasiant. Voilà.
D'accord. Et sur y aller à tâtons, essayer de...
C'est ça. Et sur tous les compléments alimentaires type non énergétiques, là, j'ai envie de dire, allez-y.
Ouais.
Franchement, ça n'apporte ça ne va pas vous faire prendre du poids, parce que les personnes, c'est ça, est-ce que ça va me faire prendre du poids. Avant d'être en surdosage, il faut y aller. Vraiment. Vraiment. Donc, tout ce qui est zinc, magnésium, calcium, vitamines de façon plus générale, potassium, il y en a tellement que je ne vais pas tous les citer. Mais là-dessus, on peut y aller.
Ok, et ben voilà, donc vous avez le conseil de Cécile. Et quand je disais comment bien les choisir, justement, toi, tu travailles avec Brain Effect, qui sont des compléments naturels pour un meilleur sommeil, une meilleure concentration, plus de bien-être et d'énergie. Est-ce que toi, tu les recommandes ?
Ah oui, complètement. Alors, c'est vrai qu'avec mon petit parcours, j'ai quand même eu la chance d'être sollicitée par...
Et d'en tester plusieurs.
Et d'être abordée, on va dire, par plusieurs marques et ceux qui ont eu mon... qui ont gagné ma confiance. Déjà, j'aime beaucoup la façon de travailler, tout simplement. Et maintenant, pour parler des produits en soi, effectivement, j'ai eu l'occasion de les tester, mais c'est phénoménal. C'est-à-dire qu'on est sur des produits de très, très haute qualité qui sont tellement en amont des besoins. Ils ont vraiment fait une recherche. Enfin, c'est visiter leur page. Cécile 20, vous aurez 20%. Je fais l'instant promo. Mais c'est vraiment une marque qui est très intéressante et qui très à l'écoute des personnes avec lesquelles elle travaille.
Je rebondis sur ce que tu disais là tout à l'heure par rapport au confinement. Mm-hmm. Ça fait, on a été tous enfermés pendant 2 mois. Ouais. Absolument tout le monde, je veux dire, parce qu'on n'a pas eu le choix. Il y a eu un sondage qui a été fait comme quoi, objectivement, 2 kilos ont été pris en moyenne par les gens pendant le confinement. Ouais. Comment ressortir et retrouver peut-être une alimentation en sortant de cette période où on était confiné, où on mangeait plus ? Je ne sais pas si tu as des conseils peut-être particuliers là-dessus.
Moi, je fais partie des Français qui ont pris 2 kilos. Et je les vis très bien. Finalement, c'est bien de ne pas me voir avec... Alors, je sais qu'il y a des femmes qui veulent le ventre plat, les abdos, mais moi, j'aime bien. J'aime bien avoir vu finalement cette silhouette un peu changée. Et je me dis, c'est que 2 kilos. Et si un jour, ça vient me gêner, je mettrai en place des choses. Et là, c'est pareil. Finalement, ces Français, ils ont pris 2 kilos. Mais ce qu'il faut voir, c'est est-ce qu'ils le vivent mal ou est-ce qu'ils le vivent bien ? S'ils le vivent mal, 2 kilos, c'est rien. C'est quand on veut, en 10 jours, c'est plié. Et s'ils le vivent bien, pourquoi on va les culpabiliser ? Pourquoi on va leur faire changer leur comportement alimentaire ? Tu vois ce que je veux dire ? Donc, et là, on en revient à l'équilibre. L'alimentation équilibrée, c'est un juste milieu entre... J'apporte ce dont j'ai besoin à mon corps et j'apporte ce dont j'ai besoin pour mon esprit, pour me sentir bien. Et tant que je n'ai pas de déséquilibre, tant que je le vis pas mal, quand je rentre dans un pantalon, je ne suis pas serrée, quand je me croise dans le miroir, je ne me trouve pas dégueu, c'est peut-être pas le conseil que tu attendais.
Pas du tout, au contraire, je trouve ça hyper intéressant et même complètement atypique parce que tu es nutritionniste. Je pense que la majeure partie des gens qui vont voir des nutritionnistes, c'est pour perdre du poids, la plupart du temps, j'imagine. Et toi, tu viens en me disant, un discours, moi j'ai pris 2 kilos et limite j'ai envie de dire, c'est bien en fait, il n'y a pas de problème à ça. Et c'est assez intéressant dans ton approche parce que tu as un discours potentiellement aux antipodes de ton métier. Tu vois
c'est ça. En fait, si tu veux, c'est amusant parce que j'explique à ma communauté, je ne vous pousse pas à manger n'importe quoi, c'est pas ça. Mais par contre, jamais je ne vous culpabiliserai. Moi, le discours que j'ai, c'est on sort des chiffres. Il faudrait que je t'explique comment je fais une consultation. Ouais, je vais peut-être commencer par là.
Peut-être.
Moi, la consultation, je reçois dans un café. Un petit café à Montreuil, hyper sympa, c'est hyper atypique également, donc ça se prête bien finalement. Je ne reçois pas en cabinet, parce qu'en cabinet, les gens s'attendent à être pesés, mesurés, des chiffres. Et comme je t'ai dit, pour moi, l'alimentation, c'est simple. Et attention, je ne travaille qu'avec ce qu'on appelle des biens portants, des personnes qui n'ont pas de maladie, donc je le précise. C'est ce qui me permet de m'affranchir de cette relation médicalisée. Et je veux pas la relation médicalisée. Et les personnes, quand je les reçois, je les vois, mais à partir du moment où j'envoie leur dossier, je dis, on se tutoie maintenant. Allez, à partir de maintenant, en fait, on taffe ensemble et je fais partie de ton staff. Et même si c'est une personne qui n'est pas sportive, je lui dis, je fais partie de ton staff. Quand une femme accouche, son staff, c'est la sage-femme. C'est, tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Et là, c'est la même chose. Et du coup, il y a ce côté très détente. Et je ne dis pas que ça convient à tout le monde, mais en tout cas, ça convient à certains. Donc,
Hors du cadre.
Ouais.
Hors du cadre. ça rejoint une question que j'avais aussi sur... Et on a vu de plus en plus d'articles et un nouveau mot sortir, l'orthorexie.
Ouais.
sur le fait de vouloir à tout prix bien manger,
ouais.
Qui est une nouvelle maladie. Hein, ils ont
c'est un trouble, c'est ce qu'on appelle un TCA, c'est un trouble du comportement alimentaire.
Tu arrives à le comprendre, toi, c'est justement cette volonté maintenant des gens de vouloir à tout prix bien manger et d'être complètement obsédé par ça.
Alors attention, parce que l'orthorexie, c'est vraiment un mot fort. Hein. On parle d'un trouble, ouais. C'est comme l'anorexie ou la boulimie, où on est sur un vrai trouble du comportement alimentaire, c'est-à-dire que tout est conditionné par ça. Donc, de la même façon qu'on ne va pas comparer une femme ou un homme qui veut perdre du poids à un anorexique, on ne peut pas comparer une personne qui surveille son alimentation à un orthorexique. C'est très important de préciser ça, puisque qui dit trouble du comportement alimentaire, dedans, il y a comportement. Donc, il y a un vrai travail psychologique, d'accompagnement psychologique. Donc, j'ai déjà eu l'occasion d'être confrontée à des personnes qui en souffrent, à degré plus ou moins fort. C'est plutôt chez les féminines. Parce que chez les athlètes, justement, il y a cette notion de « je dois être au poids, je dois être au poids, je dois être au poids ». Les coachs sont beaucoup plus durs avec les femmes. Alors que ce n'est pas juste, puisque quand un homme perd un kilo, c'est le même effort que quand une femme doit en perdre deux. Donc c'est deux fois plus dur pour nous. Oui, parce qu'il y a tout un système hormonal. Enfin, on n'est pas fichu pareil. Hein. Les hommes et les femmes, on n'est pas pareil. Ouais. Hein. Donc, d'un point de vue physiologique, c'est bien connu. Donc, si tu veux, on retrouve plutôt quand même ça chez les populations féminines. Et autant, moi, j'essaye de les accompagner au mieux, mais je les invite vivement à être suivis par un spécialiste au niveau du mental, parce que ça, c'est pas mon métier et j'ai pas ces compétences-là. Voilà.
C'est très bien, c'est clair maintenant. Et je me permets de rebondir aussi sur quelque chose que tu as dit qui m'a surprise, parce que je ne savais pas quand tu disais qu'un homme perdait un kilo.
Ouais.
Enfin, l'effort fourni pour perdre un kilo était l'effort fourni pour perdre 2 kilos pour une femme.
Ouais.
Au niveau des besoins physiologiques, tu l'as dit, on n'est pas fait pareil, effectivement.
Ouais.
Toi, au niveau des besoins nutritionnels, est-ce qu'ils sont différents déjà entre un homme et une femme? Est-ce que tu travailles différemment, spontanément, parce que tu vas avoir un homme en face de toi ou une femme? Et quelles sont ces différences de besoins?
Alors, totalement. C'est-à-dire qu'en fait, un homme et une femme, déjà, quand on fait les calculs... Alors, là, je vais rentrer un petit peu dans le spécifique, mais si tu veux, on calcule ce qu'on appelle le métabolisme de base. Donc, le métabolisme de base, c'est de combien de calories, c'est-à-dire d'énergie, ai-je besoin pour couvrir mes besoins quotidiens? Je rappelle, les besoins, c'est... premier, c'est respirer, digérer, dormir, etc. Il est bien évident que si tu ajoutes une activité sportive, ton besoin, il est plus grand. Ça va de soi. Donc déjà, sur la base de calcul, on a des formules. Quand c'est un homme, quand c'est une femme, le premier chiffre, déjà, il diffère.
Ouais.
C'est-à-dire que chez l'homme, le besoin est plus important. Notamment sur la partie protéique. Puisque à poids de corps égal, un homme aura un pourcentage de masse musculaire plus important que les femmes. On part sur des moyennes. Il y a toujours des exceptions. Bien entendu, il y a des hommes qui vont faire 1m60 et qui vont peser 50 kg. Et on a des femmes qui font 1m80, 90 kg. Je pars sur les données moyennes, standards. Voilà. Donc effectivement, le besoin de base, il est différé. Et maintenant, il faut bien comprendre que on ne peut pas uniquement prendre le sexe. On va tenir compte de l'âge, de la taille et de la dépense physique. Voilà. Et si on veut aller plus loin, après, on peut tenir compte, de la part de l'ossature, puisqu'elle a son poids. Je ne sais plus si je l'ai dit, de l'âge, mais c'est évident. Voilà. Et donc, on prend tout ça et puis on fait un petit mix. Après, ce sont des calculs, donc ce n'est pas très intéressant d'en parler. Mais par contre, le point très intéressant, en tout cas, moi, je travaille beaucoup dessus, c'est le cycle menstruel. Ne négligeons absolument pas ça, puisque nous sommes des femmes, nous sommes soumis donc à des cycles, au rythme lunaire. Hormonalement, ça n'a rien à voir avec les hommes. Les hommes ont des variations de cycle au niveau hormonal, mais rien à voir avec nous, les femmes. Et on a toujours tendance à vouloir, dans notre société moderne, un peu féministe, à renier cette notion de cycle. Mais en tout cas, moi, je la prends en compte parce qu'elle fait partie de notre façon de fonctionner. Et oui, à un certain stade du cycle, on a plus d'envie de nourriture qu'à un autre moment. On est plus fatigué, on est plus à fleur de peau. Et moi, j'explique à mes athlètes qu'il faut accepter ça. Et puis après, bon, on travaille énormément puisque on est sur des sports à catégorie de poids et potentiellement sur les athlètes internationales, on voyage. Qui dit voyage, dit avion, peut dire rétention d'eau. Qui dit rétention d'eau, dit impact sur le poids. Donc, c'est aussi pour ça que je travaille sur le cycle. J'ai besoin de connaître le cycle de mes athlètes.
Bah, écoute, tu réponds à une question sur laquelle j'allais enchaîner du coup suite à ma première question, qui est assez intéressante parce que nous, c'est vrai que c'est une thématique qui nous tient à cœur et qui n'est pas forcément justement un peu encore tabou dans le milieu du sport et qui est en train en tout cas de se développer. Il y a des athlètes qui commencent à en parler aussi. Mm-hmm. Et ma question était justement par rapport à ce cycle. Effectivement, est-ce que ça a un impact par rapport à l'alimentation ? Est-ce que tu adaptes l'alimentation quand une femme ou une sportive que tu suis à ses règles ? Donc, tu m'as répondu à la question en l'occurrence. Et c'est intéressant de le savoir parce que c'est pareil, je trouve que c'est quelque chose, en tout cas moi, que je ne savais pas, que l'alimentation en tout cas devait peut-être être adaptée quand on avait, notre cycle menstruel, par rapport au cycle menstruel.
On a tous le stéréotype de la nana qui se jette sur le chocolat ou le pot de glace et ça rentrait aussi loin dans ce stéréotype, mais certaines me disent, voilà, il y en a qui, attention, certaines ne sont pas trop sujettes aux variations. Je ne dis pas que toutes les femmes le sont, mais il faut savoir que certaines femmes sont un petit peu plus sensibles. J'en ai même qui ont des... Ah, le mot me... Quand tu as envie de manger d'un coup...
Des pulsions.
Des hyperphagies.
Ah, pardon.
Oui, c'est ça, ce sont des pulsions alimentaires, ce sont des hyperphagies. C'est-à-dire qu'en fait, tu as une envie insatiable de manger. Et même si tu sais que c'est trop, que ce n'est pas bien, c'est une sorte de gavage. Mm-hmm. Mais c'est très ponctuel. C'est pour ça que ce n'est pas de la boulimie. Hein. Voilà. Mais c'est une forme de trouble du comportement alimentaire aussi. Et certaines femmes me disent, moi j'ai des petites tendances parfois à ça. Cécile, qu'est-ce que je fais ? Et en gros, si je sais que c'est passager, si je sais qu'on est suffisamment loin de l'échéance, vas-y, cède. Alors, pas dans l'entière pulsion.
Oui, dans l'excès total.
Voilà. Je lui dis, mais accepte de te prendre un petit truc, je ne sais pas, certains ça va être un pain au chocolat, d'autres c'est plutôt du salé, enfin voilà, on voit ensemble. Mais en gros, pour ne pas avoir cette frustration, on a fait partir la frustration. Et aussi, il faut bien comprendre qu'un écart, dans une alimentation équilibrée, le corps ne le compte pas.
Mmh.
C'est la répétition de l'écart qui est importante. Et c'est pour ça que moi, les écarts, je sais que j'en fais tous les 3-4 jours. Parce que ça ne compte
ouais,
pas.
Si ça s'annule. Plus...
Voilà, c'est parfait. Et tu sais, c'est important parce que sur mes réseaux, j'explique beaucoup ça. Je suis une vraie épicurienne. Moi, je suis une Italienne. Enfin, je suis d'origine italienne. Je viens du Sud. L'apéro, les potes, etc. Mais c'est la base. Donc, la vie sociale, elle est hyper importante. Et du coup, cette notion psychologique, elle est importante. Cette dimension de plaisir, de partage. Et si c'est quelque chose que je ressens, bah, l'autre va le ressentir aussi. Mmh. Tu vois ce que je veux dire ? Et c'est pas parce que t'es athlète de haut niveau que ça veut dire que tu te coupes de tout. Il faut leur apporter ça. Et donc, pour revenir à la partie du cycle, moi, je dis à la personne, vas-y, libère-toi de ça. De toute façon, ça ne comptera pas. Et à l'inverse, si on est vraiment très, très proche de l'échéance, ce n'est arrivé qu'une seule fois, ben là, tu prends plutôt la casquette de la maman ou de la sœur qui lui dit, mais regarde, c'est dommage, t'as fait tous ces efforts, on y est là. Va jusqu'au bout, tu rappelles l'importance. Mais
Tu deviens la coach mentale un peu.
Oui, alors... Mais après, il faut savoir que ces athlètes-là sont entourés de leur staff aussi, un staff qui est beaucoup plus présent que moi, puisque moi, je ne les vois pas au quotidien. Le préparateur physique ou le préparateur technique va les voir au quotidien. Mmh. Donc, mais quand on m'appelle pour cette partie-là, je pense que c'est vraiment que la personne est en détresse et donc je me dois de bien rappeler. Ça m'était arrivé une fois, un athlète, c'était aux fêtes de Noël. Il combattait juste après Noël et il était frustré de ne pas pouvoir manger comme tout le monde en famille. Et il lui dit, est-ce qu'on est à 3 jours ? Tiens bon, oui, on comprend, mais rappelle-toi pourquoi tu fais ça. Toujours se rappeler l'objectif. Voilà.
Forcément. Pour conclure un peu tout ça, parce qu'il y a plein de choses qui ont été dites très intéressantes, et je pense que chacun trouvera peut-être des choses qui lui correspondent, en tout cas, ou même juste de l'éducation, parce que c'est des choses qu'on ne sait pas forcément non plus. Si tu avais juste comme ça un message global, peut-être un way of life que toi, tu as à donner aux gens qui nous écoutent par rapport à l'alimentation, mm-hmm. par rapport à leur mode de vie en général, quel serait-il ?
Ça va être un peu à l'ancienne, hein, mais c'est manger un petit peu de tout, mais un petit peu. C'est-à-dire que faites-vous plaisir, savoir s'écouter, vraiment. Et ouais, il y a un proverbe qui dit « usez de tout, mais n'abusez de rien ». Je pense que ça s'applique plutôt bien sur l'alimentation, voilà.
Et dernière question, qui est notre question qui clôt le podcast. Notre podcast s'appelle « Championne du monde mm-hmm. ». Quelle est ta définition d'une championne ?
Je pense qu'une championne, c'est une personne qui lâche rien, quels que soient les obstacles. Tu mets tout en œuvre pour passer par-dessus. Donc une championne, ça peut être une femme qui se lève à 5 heures du matin pour aller travailler et juste ramener l'argent au foyer. Une championne, c'est pas forcément une sportive, c'est une femme de tous les jours. Voilà.
Super. Ben, merci beaucoup Cécile, en tout cas pour ce moment.
Plaisir.
C'était très intéressant et en tout cas, bon, à titre personnel, j'ai appris plein de choses. Donc je suis très contente et j'espère que ça pourra aussi apprendre des choses sur l'alimentation aux gens qui nous ont écoutés.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup à toi.
Au revoir.
Salut. Si ce parcours de femme vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous ou à me faire part de vos commentaires ou suggestions d'invités sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer et SoundCloud. Et rejoignez-nous sur Instagram pour découvrir quotidiennement des infos sur le sport au féminin. À très vite !